Hommage, respect, big up, même l'été, la bande originale continue. Au programme de cette heure estivale, Stéphane Guillon, Jonathan Cohen, Fabrice Eboué, Emmanuel Petit, Eric Métayer, Andréa Bescon, Philippe Lelouch et la bande au très très grand complet. Le meilleur de la bande originale spéciale été, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter. Take a size, the lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say, ah, she refuses you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you.
Vous écoutez Bob Dylan, I Want You, vous vous voyez ado dans votre piole avec des disques, ouais, c'est quoi la scène?
Je leur ai tout fait, j'ai eu une période Baba Cool, Benares, mes parents ils en pouvaient plus, vraiment, c'était très sévère.
Et c'est pour ça que votre mère vous a accompagné à un cours de théâtre, pour vous canaliser?
Ils étaient désespérés, ils m'ont payé des boîtes à bagues, j'ai fait 4 secondes, ils étaient désespérés. Je branlais rien du tout.
Et là, le théâtre, un cours de Henri Van Grey, je crois.
Henri Van Grey, oui.
Et vous dépassez une scène et vous choisissez Don Juan.
Je choisis de jouer Don Louis, le père de Don Juan, mm-hmm. Et j'écoute un disque de Louis Jouvet qu'il y avait dans le bureau de ma mère. Et Henri Van Grey écoute et il me dit « C'est extraordinaire parce que tu n'as pas pu voir ce spectacle, il y a peut-être eu un disque ». Mais on dirait l'interprétation de Don Louis. Donc il me redonne exactement ce que... Il me dit, mais est-ce que
tu... En fait, vous étiez dans l'imitation, en plus.
Dans l'imitation. Ouais. Et il me dit, mais est-ce que tu l'as entendu quelque part? C'est incroyable. Et moi, j'ai menti comme un arracheur de dents. Je lui dis, mais non, je connais pas
du déjà tout. Déjà ça.
Je connais pas du tout.
Excusez-moi d'avoir du talent, monsieur.
Déjà salopard.
Ou déjà imitateur.
Et très rapidement, c'est votre premier rôle au cinéma. Aussi, dans On s'en fout, on nous aime. Nous, on s'aime.
Mon premier et mon dernier, oui.
Non, c'était...
non, mais je rigole. Mais c'était l'époque où on faisait des films avec des bouts de ficelle. Et voilà, c'était l'époque de la boom. On faisait avec 70 000 francs, tu faisais un film. Donc c'était un nanar incroyable. On s'en fout, nous, on s'aime.
Et après, vous avez joué dans des téléfilms.
Ouais.
Vous avez enchaîné un peu, quelques rôles.
Oui, après, j'ai fait du cinéma d'auteur avec Laetitia Masson, Marc Fitoussi, Anne Fontaine. Voilà.
À l'époque, vous rêviez de quoi? D'être comédien? De jouer aussi bien théâtre, cinéma et d'avoir des grands rôles?
Oui, ouais, je rêvais d'être comédien. J'ai une formation classique et puis ça s'est pas fait. On prend des chemins de traverse. Voilà, il se trouve que je me suis fait connaître en tant que chroniqueur chez Stéphane Bern et comme humoriste après. Et puis là, je reviens à mes premières amours.
Très bien, justement, on va passer par ce passage sur scène dans les années 90. Musique qui va bien au monde de la télévision, je trouve.
C'est toi qui l'as dit. Hein.
Ouais, absolument. La bande originale du Clan des Siciliens, quand on vous a dit quelle musique pourrait illustrer votre premier one-man show, le rapport entre les deux?
Aucun. Même... C'était ce que j'écoutais à l'époque.
D'accord.
La question qu'on a, ouais. Que votre équipe...
Oui, non, mais à l'époque...
Voilà. Moi, je suis exactement votre équipe. On me demande de faire ça.
Très scolaire.
Ça. Cette musique est absolument sublime.
Donc, à l'époque de votre premier One Man Show, vous écoutiez le Clan des Siciliens?
J'écoute énormément de musique de film, j'adore ça. Non, à l'époque, encore plus, oui.
D'accord.
Et c'est le premier One Man Show?
C'est dur pour tout le monde. Le titre.
C'est ça, oui, j'avais... j'avais bien compris. Oui. Dans une toute petite salle, je crois...
Oui, le Movies, rue Michel Lecomte. C'était grand comme une épicerie. À cette époque-là, la même année, on démarrait Danny Boone, Michel Muller, Laurent Savard, moi et
Jamel.
Et Jamel. La même année. Incroyable.
Un bon cru.
Mais un cru excellent.
Et vous dites dans les interviews, si j'étais pas montée sur scène, j'aurais complètement loupé ma vie. Donc il y a quoi? Il y a un déclic à ce moment-là?
Ah oui, j'avais très envie de faire du one-man show. Ça me faisait très peur, mais... J'avais très envie de faire rire. Donc je voulais absolument passer par cette... Pardon?
Non, j'étais en train de réfléchir.
Ouais, mais j'aime bien quand tu réfléchis, parce que je pensais que tu avais quitté le studio depuis 20 minutes.
Non, c'était... Là, je reviens.
Bon, d'accord.
Je reviens. Ça devient intéressant, je reviens.
Le fait que tu parles, ça m'a...
Ça nous a réveillé un peu.
Pas très concentré, Stéphane.
Pardon, oui, excusez-moi.
En 2009, Stéphane Guillon, vous écoutiez... Amy Winehouse. Donc, en 2009, vous êtes qualifié par le prestigieux New York Times d'humoriste de référence contre le pouvoir en France.
C'est fou.
Waouh. Là, on est au-delà de la consécration.
Bah, ouais. Même Mélenchon, il n'a pas eu ça.
C'est l'idée. Pour l'instant, attends.
Et là, on prend la grosse tête ?
Oui. Clairement, oui. C'est-à-dire que...
Mais temporairement,
non,
comme ça,
mais je pense qu'à un moment
ou...
donné, bon, revenons un peu à France Inter, mais il y a un moment donné quand vous avez cette écoute, ce retentissement. Je faisais une chronique tout de suite. C'était, je pense qu'à un moment donné, oui, on pense qu'on est le plus fort de la cour de récré.
C'est le cas de Daniel Morin.
On n'est pas le plus fort de la cour.
Très, très atteint.
En ce moment, depuis une dizaine d'années, qui nous saoule.
Et insupportable.
Mais on ne se méfie pas, je veux dire. Vous avez de l'expérience, vous connaissez l'univers médiatique et vous dites pas dans ces moments-là, il faut vraiment que j'assure mes arrières parce que ça peut repartir aussi vite que c'est venu.
C'est fragile, oui.
Non, mais c'est pas reparti. Ça a été une période qui était compliquée ici dans cette maison. On va pas y revenir. Voilà, donc.
Non, mais ce sur quoi on peut revenir, c'est votre rapport aux médias, quel qu'il soit, que ce soit à la radio ou à la télévision. Est-ce que, d'abord, les humoristes, ou en tout cas vous, avez besoin d'un média ?
On a besoin d'un média pour exister, à mon avis. Maintenant, je pense que ce métier a changé, il évolue, et que ce soit pour nous, humoristes, ou pour les journalistes, ou voilà, je crois, si vous voulez, qu'en ce moment, il y a quand même une chose. Assez terrible dans le traitement de l'information et dans le traitement de ce qu'on peut dire à un moment donné dans un média. Et systématiquement, les phrases sont extraites de leur contexte, déformées. Mmh. Et on arrive à un moment donné où on s'auto-censure parce qu'on se dit « Ouh là là, je vais dire ça, ça va partir en sucette ». Et ça, c'est sans arrêt. Donc c'est vrai qu'on arrive à se dire « Bah, je vais fermer ma bouche ».
France Inter, la bande originale, le best-of.
Ah, j'adore. Je
peux construire un meuble Ikea sur cette chanson.
Avec le sourire. Ouais, mais il vous manquera toujours une vis.
Ouais, c'est sûr.
Don't stop me now, Queen. Là, vous vous revoyez dans, à part construire un meuble, dans quel...
Dans le ventre de ma mère, vraiment, je viens de sortir.
Sur cette musique
là, sur les années 80, hein, c'est, ouais. on est là-dessus, c'est, je suis né le 16 juin 80, là ma mère, voilà, j'apparais, j'entends ça, et là je me dis ok, la vie va être cool.
Et vous êtes né à Pantin, et enfant, j'ai la sensation que c'était pas complètement l'éclate.
Non, c'est vrai, c'était pas la grande éclate, j'ai des petits problèmes de poids, des trucs comme ça, tu vois, comme tous les gamins qui ont des problèmes de poids.
Vous étiez quoi, un peu rondouillé?
J'étais rondouillé, j'avais des bagues, et...
Ah bah là, en ce moment, il y a un petit retour à l'enfance, alors.
Ouais, sympa, ah. Merci. Facile à chanter. Et qu'est-ce que je veux dire?
Encore une fêlure, bam!
Et bim, une fêlure qui vient de tomber. Donc, ouais, j'avais des bagues et j'avais une voix aiguë. Donc, on était.
Pas des bagues dentaires.
Des bagues dentaires. Ouais. Pas des bagues vraiment à chaque doigt. Ce qui aurait été très chelou.
T'avais une calvitie.
Et un début de calvitie. Et puis après, écoute, ça s'améliore avec le temps. Et
des implants et tout.
Des implants très jeunes, bien sûr.
Et l'école?
Mais ça ne s'est pas amélioré, excusez-moi, parce que là, ça ne s'est pas amélioré. Ensuite, tu es devenu acteur, tu passes à la télé, mais rien ne s'est amélioré intrinsèquement.
Et tu vas te calmer, toi. Tu me laisses. Non, je suis beaucoup plus heureux. Dieu merci.
Et l'école ?
L'école. Bah, l'école était sympa. Enfin,
oui, est-ce que c'est...
Tu veux m'en dire, en fait.
Est-ce que c'est l'école ?
Ouais, l'école. Oui, bah, je connais, j'ai entendu parler. Mais, voilà, de là, y aller vraiment, faut pas se foutre de la gueule du monde.
Et vous commencez à bosser assez jeune, en fait.
Oui, en fait, c'est oui. Bah, j'ai pas le bac. Voilà, je passe le bac. Je l'ai pas. Je prends un bac que je pense être simple, qui est un bac STT. Et en fait, je me retrouve avec de la compta. Je ne comprends rien à la compta. Donc voilà, je loupe mon bac et très vite je commence à taffer. Ça commence par de l'immobilier, puis après je deviens vendeur
escroc,
de tête. Ouais. Mais en même temps, j'étais tellement nul, j'ai absolument rien vendu dans l'immobilier.
Ah, mais même dans le bagou, parce qu'on peut imaginer que...
Bah, c'était plus commercial dans les fenêtres, où là, effectivement, c'était du jeu d'acteur. C'est-à-dire que tu rentres chez les gens et tu dois vendre des trucs et voilà. Et donc là, c'est les premières armes, on va dire.
Et vous faisiez du porte-à-porte pour vendre des fenêtres ?
Du porte-à-porte. Bah, il y avait du porte. Non, mais tu sais que j'avais une valise de 120.
Ah oui, quand même.
J'étais trop au premier degré là-dessus.
Ah, mais
je l'ai perçu une heure après. Ah oui, d'accord, bien joué.
Et Fabrice Eboué, dans votre enfance, vous, dans les années 80, vous êtes enfant de cœur, ce qui rejoint totalement coexister avec.
Moi, je connais ça par cœur. Au niveau cato, j'ai tous les diplômes. J'ai mais vraiment, j'ai baptême, communion, confirmation.
Bah, moi aussi, mais c'est pas peine de frimer non plus. Ça.
Ah, vous avez tout aussi ?
Bah, pareil.
Tu as été exorcisé déjà ?
Non, exorcisé, non. J'ai fait enfant de cœur et j'ai fait pèlerinage à Lourdes.
Ah, ok, gros level.
Ça s'appelait le frat à l'époque. Et on était plein de jeunes, je crois, de, je dirais, 15-16 piges à peu près. Donc on partait tous là-bas pour faire notre premier pèlerinage, voilà, en tant que jeune catholique.
Et c'était plutôt un bon souvenir.
C'est un très bon souvenir, parce que quand t'as 15-16 piges, que tu pars à des milliers de jeunes au milieu, alors on était censé s'occuper essentiellement des handicapés qui allaient de la ville jusqu'à la petite grotte.
Et tu les lâches dans les descentes, et ça c'est marrant. Hein.
Bah, on a 16 ans, on se marre, on est con, hein, on va le dire. Hein, surtout oui, que la grotte est en contrebas, évidemment. Voilà. Donc,
je vois que tu connais.
Donc ouais, donc j'ai enfant de cœur à fond. Ouais.
Et scolairement, si on fait le parallèle.
Alors, on sait que madame a fait hippocagne, donc elle regarde tout le monde de haut, et scolairement, t'étais...
J'ai pas fait hippocagne, mais je trouve que c'est toujours assez intéressant, parce que dans le parcours de Jonathan, c'est se dire, voilà, l'école c'était pas fait pour moi, je commence à travailler, et puis tout de suite, j'ai envie d'aller vers de la comédie, et on, voilà, ça façonne aussi un individu.
Parce qu'il faut se démarrer quand les études sont pas là.
Ça,
mais non, mais on a tous le syndrome du comique, on était tous, j'étais pareil, petit et rondouillard. Moi j'étais en école catho évidemment, ouais, j'étais donc, le seul petit élève de couleur de la classe. On est en pleine période Arnold et Willy, donc comme j'ai dit plusieurs fois, on m'appelait pas Arnold Willy, on m'appelait Arnold et Willy, les deux en même temps quoi. Et donc j'étais là, et pour séduire effectivement petit à petit j'ai compris qu'en faisant l'idiot, bah, ou en faisant rire, ou en trouvant le bon mot, ça marchait beaucoup mieux que le physique.
Et votre papa était gynéco?
Ouais, effectivement, ça c'est mon père est gynéco, donc mon grand frère est devenu gynéco, ma petite sœur est gynéco, et moi je suis au milieu de tout ça avec des repas de famille passionnants.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
La bande originale, c'est aussi du live, du show, du groove avec Kimber Rose.
I'm back to my old ways. I don't know what happened to this. Maybe it was just me. Maybe it wasn't meant to be. I never meant a lot to you. I really thought I could love you. The way this woman do, I really thought I could see this through. To you, I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on you. I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on you. I'm sorry, boy, I'm sorry. I'm so free, I'm so free,
Kimber Rose avec I'm Sorry. On reste dans la qualité, la très grande qualité, avec la divine, la gracieuse, c'est... Ah ben non, c'est Alison Wheeler.
Bonjour à tous, bonjour Nagui, rebonjour à tout le monde, ça va ? Merci, écoute, je m'entretiens.
C'est moi que vous êtes en train de regarder.
Écoutez, même si l'actualité nous en fait voir de toutes les couleurs, aujourd'hui j'ai décidé de m'habiller en rose, hein, en soutien à Octobre Rose. Ouais. Alors Octobre Rose, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas le nom d'une boîte gay réservée aux fans de Francis Cabrel. C'est un mois consacré à la mobilisation contre le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes, 12 000 décès chaque année. Cela dit, Octobre Rose, on peut parler au marketing, s'il vous plaît. Vous allez faire une couleur pour chaque maladie. C'est quoi, le mois prochain, on s'attaque au cancer du côlon avec Novembre Marron? Non, vraiment, c'est important d'aller se faire dépister et de sensibiliser les femmes à cela. J'y tiens. Et je sais qu'on a quelques-uns des plus grands spécialistes du nichon autour de la table. Il faut savoir que Daniel Morin propose souvent des palpations en antenne toute l'année, donc profitez-en. Toujours là pour rendre service, Daniel.
Toujours.
Octobre Rose, l'occasion de rendre hommage à deux personnes que j'aime plus que tout, et je leur dis jamais, mes seins. Tribute. Quand j'étais toute petite, je voulais des seins magiques pour voir la vie en rose. Puis ils ont un peu poussé, pas en même temps, c'est vrai, ça me fait quelques névroses. Je complexais sur ma poitrine devant des magazines qui m'en montraient des fausses. J'ai appris à vous aimer comme vous êtes, affronter les premiers 10 camions pouette-pouette. Et dès que je les aperçois tout près, je sens en moi mon cœur qui part. Quand je marche dans la rue, abordée par un inconnu, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des wesh mademoiselle, on fait un tour. Et ça me fait pas grand chose. Même quand je porte un col roulé, ces mecs sont excités. C'est que c'est pas de votre faute. Marre qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Mes seins sont free et j'en suis fière. Je les amène au boulot, on fait un beau trio. Je vois la vie en rose. Quand je regarde mon salaire, que j'en perds mes ovaires, je vois la vie en rose. 20% de thunes en moins, juste parce que j'ai les seins, je vois la vie en rose. C'est à vous mettre vraiment la haine, à vous donner l'envie de devenir féminine. Ils finiront par tomber, la loi de la gravité ne fait jamais de pause. Subissant l'effet du temps d'un bébé qui vous prend pour une pompe à lactose. Il défile pas pour Victoria's Secret, mes petits gants de toilette, jusqu'à la ménopause. Des fois j'ai même l'impression qu'il sourit sur les clichés de mes mammographies. Mes seins chéris, mes seins chéris.
j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais nonobstant cette sympathie, quel sacré faux cul vous faites. C'est incroyable. 5 minutes avant l'émission, j'ai dû faire barrage de mon fauteuil roulant entre vous et GNB, votre malheureux rédac-chef à la jambe en mousse, purulente, quand vous lui avez demandé à coup de baramine « Pourquoi Emmanuel Petit ?» hurliez-vous en secouant GNB par la barbe, seule partie de son corps, je le signale, ayant échappé à l'épilation lors d'un récent séjour à l'hôpital sur lequel je n'en reviendrai pas. Et je ne parlerai pas des parties de son corps.
Bah, c'est autant mais non, bah, ça suffit.
Tu sais bien, avez-vous continué Nagui, que le seul joueur que je kiffe à mort, c'est Zizou. Et bien sûr, notre parrain, Didier Deschamps. Tous les autres, je m'en tape. « Oh, mon maître !» osa répondre GNB. « Emmanuel Petit fut un grand joueur et il pourra vous parler de Zidane. Regardez, la dernière entrée de son dictionnaire passionné de l'équipe de France lui est consacrée. »« Tiens, voilà ce que j'en fais de son dico !» répondit Nagui en martelant la tête de GNB avec le bouquin. « Mais bon, je vais assurer une fois de plus, comme si de rien n'était. » C'est alors que je me suis permis d'intervenir, comme mon CDI l'y autorise d'ailleurs, pour faire votre éloge, monsieur Petit. Parce qu'à la différence de Nagui, vous n'êtes pas du genre à tortiller du cul quand il s'agit de dire ce que vous pensez de vos supérieurs. Je pense à monsieur Le Graët, qui en prend pour 100 grades sa maison en Bretagne. Et Santini. Hein, Santini, lui, prend beaucoup. Hein. Et puis, un gars... C'est page 34, hein, je vous ai bien lu, qui a survécu au paludisme et à la phlébite, comme moi, jadis, au Tonkin. Je dis chapeau de brousse. Elle a fait le bataillon de Joinville aussi. Oui. Hein, pas... Un gars qui déclare, page 170, « Je n'ai jamais eu peur sur un terrain. Exactement comme moi, en Indo, en Algérie, je dis que c'est un gars qui en a dans le short. » Quand on le voit, on s'en doute. Et puis, il y a un autre point commun entre Emmanuel Petit et moi, c'est, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, la queue de cheval. Que longtemps, vous comme moi, nous arborons. Emmanuel,
non.
Vous sur les terrains,
non.
Moi dans l'intimité,
non.
Pour la plus grande satisfaction de mon épouse, Edmond, la regrettée maréchale Ganache, qui d'ailleurs partageait ma passion pour le football. Ah, Edmond, je le revois encore, ça me fait chialer, me susurrer.
Ah,
oh, Ganache, j'adore tes coups de franc dans ma lucarne. Et je l'entends encore me murmurer dans un râle d'abandon lassif. Oh, oui, Ganache, prends-moi le petit.
Oh,
j'en chiale, bonne émission.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Dans le dictionnaire, il y a beaucoup de noms de joueurs et beaucoup de cas qui sont évoqués, que ce soit Cantona, Didier Deschamps, Bogossian, Platini,
Materazzi.
Et puis, aussi. Nicolas Anelka,
oui, Nico, hein.
Qui vous a presque déçu dans son comportement, alors que vous préférez garder l'image du joueur qu'il était, de la perle qu'il était à Arsenal.
Il m'a déçu, oui et non. Je dirais que Nico, Nico, j'ai beaucoup d'affection pour Nico. Moi, je le connais depuis très longtemps.
Vous dites, je préfère oublier ce qu'il est devenu et me souvenir de ce qu'il était.
C'est quand même pas... Ses prises de position sont très radicalisées. C'est vrai que dans sa communication, il cherche pas vraiment à peaufiner son image. Donc je dirais qu'il y a une fracture aujourd'hui qui ne fait que s'agrandir de plus en plus. Et je pense que Nicolas aussi a dû ressentir aussi des choses, des blessures internes depuis très longtemps et qui n'ont fait que s'amplifier avec...
Qu'il n'a pas eu la place qu'il méritait en équipe de France.
Je pense à l'image de Karim Benzema aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire ensuite. Ouais.
Mais je pense qu'un clou était déjà enfoncé et qu'ils ont pris le marteau pour enfoncer le clou définitivement.
Ouais. Comment pouvez-vous nous expliquer les questions que se posent les fans de foot sur la présence ou non de Benzema en équipe de France, la carrière qu'il fait en club et celle qu'il n'a pas réussi à faire en équipe de France, et la réaction de Didier Deschamps de dire « je privilégie le groupe ». Sous-entendu, l'ambiance au sein du groupe.
Ouais. Ça a toujours été un leitmotiv de tous les entraîneurs, de privilégier le groupe. Maintenant, quand vous avez des individualités qui sortent du groupe, on connaît le parcours de Karim Benzema au Real Madrid, il est exceptionnel. Son parcours en équipe de France est jalonné de beaucoup de polémiques et aussi de... Si on se base simplement sur l'aspect sportif, Giroud par exemple est devant lui en termes de ratio but et de minutes jouées.
Et encore plus hier soir, oui.
Exactement, donc Je pense qu'on n'a jamais réellement vu le Karim Benzema du Real Madrid sous le maillot français.
Mais alors comment expliquer qu'un joueur comme Giroud, d'ailleurs, n'est pratiquement plus sa place de titulaire à Arsenal
oui.
Et il met encore des pions en équipe de France, qu'à l'inverse...
Pions, un nom technique pour dire but.
Et qu'à l'inverse, des joueurs, même comme Messi, font une carrière incroyable au Barça et l'Argentine souffre.
Pourtant, il a marqué un triplé Messi hier.
Oui.
Il a qualifié son équipe pour le Mondial.
Non, mais d'accord, mais globalement, elle n'a jamais eu aucun titre. Ni
Messi, ça peut s'expliquer. C'est ce que je disais hier d'ailleurs sur Messi dans une émission. Le fait qu'il n'ait jamais joué en Argentine, qu'il est parti très rapidement, très jeune en Europe et notamment à Barcelone, je pense qu'il n'est pas le roi incontesté en Argentine comme il peut l'être ici en Europe. Et je pense qu'il y a une frustration du peuple argentin. Ils veulent voir le Messi du Barça sous le maillot à Albicet.
Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on peut être bon joueur dans son équipe nationale et carrément remplaçant ou moins bien joué.
Il
ne
faut pas que
club.
La situation s'éternise.
Voilà. Et à l'inverse, on peut être très bon dans son club et pas bon
exactement.
En équipe.
Bah, exactement. Donc,
c'est ça la notion de groupe, en fait.
Exactement, c'est la problématique. L'équipe de France, c'est quand même le Graal. C'est la dernière marche dans la carrière d'un joueur de foot.
Ça s'appelle le mon dictionnaire passionné de l'équipe de France, publié chez Hugo Sport, signé Emmanuel Petit avec Daniel Riolo.
La bande originale, le best-of, sur France Inter. We don't need
Roger Waters revient en concert au mois de juin. Là.
Ah ouais, mais ça, bon, j'arrête avec les concerts parce que on m'offre des places, entre autres, avec une personne qui est à côté de moi et qui m'a offert des places et je vais pas voir les choses que j'aime. Alors bon, j'ai pas le temps, mais. Non, il m'offre des places et j'y vais pas.
C'est quoi cette vanne là?
Mais non, c'est vrai, c'est parce qu'elle me. Je lui prends la tête avec des groupes que j'adore et qui ont été toute mon adolescence.
Genre les Floyd par exemple.
Les Floyd ou Magma par exemple, et elle m'offre les places et je fais, waouh, c'est génial, c'est super.
Et vous n'y allez pas?
Et après, je fais, ah bah non.
Christian Vander.
Ah là, ouais, Christian Vander, ça a été. Enfin bon, eux et les autres, mais ça voilà. Donc après, j'arrête de dire, oh là là, qu'est-ce que j'aime, parce que sinon, elle me fait les trucs et après, j'y vais pas.
Mais en la vendant sur Internet, vous pouvez faire.
Oui, bah, si ça, vous faire un bonus.
C'est ce qu'on va faire avec Ayam, là. Vous avez pris
ah oui, avec Ayam, on devait aller voir Ayam, là. Et c'est pareil, on peut pas y aller. J'ai pris les places et donc on va aller.
Attendez, on peut se débrouiller, c'est quand cette
affaire. Non, mais on veut bien remplacer, nous. Je veux dire, on peut rendre service. Surtout pour Ayam.
Pour les numéros, on va s'organiser.
Ouais, c'est vrai. Et dans ces années-là, Éric Métayer, vous baignez en pleine ligue d'impro. C'est cette période-là où vous participez à des championnats du monde. Enfin, voilà, c'est.
Bah oui, mais c'est parce que c'était. Je voulais faire du théâtre, mais c'était quand on est père ou quand on a un fils plutôt. Quand on est fils d'eux, ça me posait un peu des problèmes parce que je me disais bon, j'ai envie de faire du théâtre, mais je vais me retrouver avec des gens qui vont faire ah bah d'accord, si le rôle qu'il a, le rôle il l'a eu, c'est parce que évidemment ouais. La connexion nanana.
C'est le fils d'Alex Métayer.
Et j'ai eu la chance de tomber sur la ligue d'improvisation, c'est-à-dire un truc où on fait de l'impro, c'est-à-dire que tout ce que je dis et tout ce que je fais, si ça fait rire ou si ça joue, ça n'est créé que par mon cerveau au moment précis. Donc quand je me suis retrouvé là-dedans, j'ai dit mais c'est parfait pour moi, parce que si j'y arrive, là il y a personne autour de la patinoire, parce que le principe était une fausse patinoire, personne ne pourra dire ah bah ce qu'il est en train de sortir, c'est un sketch de son père. Donc ça a été pour moi extraordinaire.
Et une grosse école, enfin très formatrice, vous y restez de nombreuses années.
Ah oui, j'y suis resté, j'y suis resté 10 ans là-bas, mais parce que.
Enfin, formatrice, pardon, il est le bon comédien qui est Éric Métayer ne vient pas de la ligue d'impro, parce que toute la ligue d'impro ne donne pas de bons comédiens. Médias, pardon, c'est ceux qui sont capables.
C'est aussi grâce au piston de votre père.
Le jeu, l'interprétation, c'est pas la même chose que.
Non, il y a des très très bons comédiens qui sont des très très mauvais improvisateurs.
Et inversement aussi.
Aussi. Mais c'est plus rare par contre, hein, dans les gens que je connais d'improvisateurs, s'ils arrivent à improviser la plupart du temps, ils arrivent à s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est dans les deux sens. Mais voilà, donc j'ai vraiment eu ce plaisir-là. Et puis en plus, c'était un plaisir fou parce que tout le monde découvrait l'improvisation. Personne ne savait ce que c'était, et que un peu comme Andrea avec le crump, avec la danse qu'elle a ramené un peu avec d'autres, mais des États-Unis. Bah oui, mais t'es quand même les premières à y aller.
On va en parler.
Moi, je me suis retrouvé dans un truc où on était les premiers à se retrouver dans un groupe, à créer cette chose-là. C'est vrai que c'était fascinant, quoi.
Daniel,
question un peu bizarre, ça se travaille l'impro?
C'est-à-dire, je dis toujours cette phrase-là qui me fait rire, c'est que quand on a un texte et que on a un trou, on fait de l'improvisation. Quand on improvise et qu'on a un trou, qu'on ne sait pas d'idée, il n'y a pas de quoi s'en sortir. Alors, je crois qu'on peut.
C'est vrai que ça fait rire comme phrase.
Oui, mais ça fait rire. Autour de la table, là, j'ai senti, mais le gag.
Ça va sortir dans 10 secondes.
Non, mais ce qui se passe, c'est qu'on peut, très sincèrement, les improvisateurs, dès le premier travail sur la patinoire, sincèrement, on sait tout de suite si l'improvisateur, il existe ou il n'existe pas. Ça passe ou ça passe pas.
Après, route, quoi, en fait.
Voilà, on fait ouais. Ah tiens, il y a quelque chose. Après, derrière, on peut apprécier, travailler son muscle. Mais si on l'a pas, ça passe
après,
pas.
Ça tient du charisme aussi. Du... Pardon.
Non mais vas-y, vite,
oui, oui, d'exister.
Il veut 5 cafés, je crois. Il y a bien.
C'est une photo à faire.
Ben, nous, on a écouté Stéphane Guillon. Il a dit Stéphane Guillon que le café était meilleur. Alors, on a dit maintenant.
Mais où est le café? Il
arrive. Sauf que moi, je n'ai pas connu son café à lui de l'époque.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Et la musique, nom de Dieu, elle est où ? Eh bien, elle est là, et maintenant, avec un certain Alain Bachung et sa petite entreprise.
Ma petite entreprise pas la crise, épanouie et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme. Que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, ces bâtiments B, à l'oreille de ce lèvre. À mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, les trésors satinés, dorés à souhait.
Vous êtes bien sur France Inter, les amis, et c'était la petite entreprise d'Alain Bachung. Lui, ce n'est pas une petite entreprise qu'il dirige, c'est une multinationale, le boss du mauvais esprit, un certain Tanguy Pastureau.
France Inter m'a contaminé. Avant, je me foutais de tout. J'avais pas d'idéal. J'étais à RTL. Je faisais rentrer la maille. J'arrive ici. Paf. Un mois après, je me révolte contre les méchants pas gentils qui font des sous sur notre dos. C'est affreux. Je vais finir à Mediapart. Oui, je dis, je vous ai parlé du glyphosate, substance potentiellement cancérigène de chez Monsanto, dont sont bourrés nos légumes. Même pour faire un jeu sexuel, maintenant, on est obligé de dire à sa femme, chérie, j'ai acheté ce concombre long et fin chez Bio, c'est bon. Garantie petit producteur sans pesticides. Et la personne qui l'a cueilli a été rémunérée de manière équitable, donc ça va, on peut s'éclater ma grosse loute. Or, le dimanche soir, je suis chez Ardisson sur C8, je suis aussi sur Inter, bref, j'ai la vie de Stéphane Guillon, mais avec du retard. Hein, normalement, dans 5 ans, je joue Modigliani sur scène. Et dans l'équipe, on a été testé au glyphosate. Hein, il y a 15 jours, on a tous pissé dans des fioles. Raquel Garrido l'a fait en live sur le Snapchat de Jérôme Star. Oh. Et Natacha Polony, la dernière cliente de Roger, le coiffeur de Jackie Quartz, a envoyé tous les pipis à un labo allemand. Ça a changé la télé. Hein. À la grande époque, Berlusconi déboulait avec un semi-remorque rempli de coke et disait « Maquet, tapez dedans, sauf les filles de 17 ans en stage, percaissez-moi que vous allez sniffer les taspés. » Aujourd'hui, vous pissez dans une éprouvette en vous disant « Zut, lundi, j'ai mangé une noix de cajou de la marque Repère, je vais crever. » Bref, hier ont été révélés les résultats du test. Et stupeur, j'ai le deuxième plus gros taux de glyphosate sur un total de 10 gonzes. Je suis tellement chargé qu'en Allemagne, quand ils ont ouvert la fiole, mon urine est venue se coller au plafond et a bouffé la charpente. Là, si je m'urine dessus, je perds une jambe. Mon corps, d'apparence si désirable et haute, n'est en fait qu'une poubelle d'1m80, rongée par le glyphosate. Éloignez-vous, Nagui, ce serait trop con que vous soyez contaminé maintenant, alors que le soir sur la 2, vous faites 17,9% en PDA et êtes leader sur les femmes responsables des achats. Moi, je fais 1,71, mais c'est mon taux de glyphosate. Donc, vous voyez un peu le fossé qui nous sépare. À vous le flouze, à moi la loose.
Mais est-ce que vous savez au moins pourquoi vous avez autant de glyphosate? Vous mangez bio?
Mais non,
en
mais oui, je bouffe que bio, même le dentifrice, je le prends bio au cas où j'en avale au moment de me rincer. Un vrai bobo, je suis à deux doigts d'apprécier Anne Hidalgo. Le souci, c'est que même dans l'alimentation bio, certains labels internationaux sont peu fiables. Exemple, vous achetez des bananes bio d'Équateur, mais les mecs là-bas font pousser leur truc juste à côté du champ d'un fan de Monsanto. Résultat, ça vole, et la banane bio, vous l'avez dans le cul. Voilà, c'est un geste en direction de tous ceux qui écrivent sous les vidéos de mes chroniques « Rendez-nous Pierre-Emmanuel Barré ». Or, hein, parce que ça fait quand même un mois que c'est dur cette histoire. Or, on va déjà pas vérifier si le paysan du 78 labellisé bio fait pousser ses courges avec du compost équitable produit par des lombrics de gauche. C'est pas pour se taper 16 heures d'avion pour aller voir Carlos, producteur de bananes en Équateur, et lui dire après une demi-journée de marche « Tu sais à combien est mon taux de glyphosate, tu rôdes putain ?» Un French kiss et avec ce que j'ai dans le corps, tu décèdes dans la seconde, cabron. Bref, je réalise que quoi qu'on bouffe, on se fait avoir. Donc ce midi, moi c'est Kit Kat en entrée, puis sushi à la dorade de Fukushima. Et on dessert 24 fraises tagada dans de la Red Bull.
Non.
Foutu pour foutu, je m'éclate. Je me rends compte que la vie est courte. Nagui, faisons l'amour.
Non plus.
On s'en fout de ce que pensera votre femme. Ça va, elle a choisi une star de la télé, pas un expert comptable. Si Laurence Bloch, la directrice de France Inter, m'écoute, je lui dis vite, le glyphosate est en moi, Lolo. Oui, je l'appelle Lolo, j'ai plus rien à perdre. Vas-y Lolo, donne-la-moi maintenant la prime de Noël, parce que demain, la connerie, je bouffe une poire. Eh ben, ce sera peut-être trop tard. Hein, on pensait tous vivre jusqu'à 130 ans comme Aznavour. Mais à cause de Monsanto, la vie est à nouveau éphémère. Ces gens ont ressuscité Ronsard, mignonne, allons voir Cilla Rose. Là, t'es jeune et jolie, girl. Bah, demain, t'es bouffée par les pesticides et ta rose, elle est pleine de glyphosate. Même Jean-Luc Lahaye voudra pas l'accueillir. Oh. Stéphane, vous qui vous êtes fait virer de partout et avez d'ailleurs rebondi à chaque fois, vous êtes tellement macronien. Savez à quel point tout est fragile. Eh ben moi aussi, depuis qu'à cause de Monsanto, ces bâtards, j'ai du glyphosate partout. Adieu.
France Inter, la bande originale, le best-of.
À 7 ans, j'avais déjà la trouille du temps qui passe, donc c'est une obsession, hein, le temps à venir, le temps passé et le temps présent. Donc c'est un moment, bah voilà, quand on a 50 ans, en fait, je les ai eus il y a pas si longtemps que ça. Et en réalité, j'ai vu tous mes copains autour de moi faire la fameuse crise de la cinquantaine. J'ai l'impression qu'autrefois...
C'est quoi la crise de la cinquantaine?
Eh ben voilà, c'est quoi? C'est, alors les mecs remettent ou leur boulot en question, ou leur couple. Mais il y a toujours un truc qu'ils remettent en question à 50 ans, en se disant, bon ben voilà, ça y est, il me reste... En fait, c'est parti d'une constatation. Un été, j'étais en moto avec des copains et j'ai dit, oh la vache, qu'est-ce que c'est bien le mois d'août quand même. Toute l'année, on attend le mois d'août. Et
Alors là, vous allez faire la vanne qui est dans, enfin, la phrase qui est dans la pièce et qui, moi, m'a foutu le cafard.
Bah, moi aussi, tiens. Moi aussi.
Elle est dingue, cette phrase, mais on me dit,
on peut l'entendre.
Bah, combien de mois d'août il nous reste?
C'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que.
Dans ta vie, combien de mois d'août il te reste à vivre?
Et tu penses à tout ce que tu as passé et que tu te dis, mince, je sais peut-être gâcher.
C'est ça que tu as gâché. Ouais, c'est ça.
Et donc, par exemple, ceux qui vont en vacances à la montagne, il faut qu'ils arrêtent ça.
Parce que... Mais tellement faut arrêter avec la montagne. J'aimerais qu'on ouvre ce dossier.
C'est le nombre de mois d'août qu'il reste en étant encore
en pleine forme,
en pleine possession de ses moyens. C'est ça.
Alors, il faut rappeler que on part sur un capital de mois d'août à vivre d'une centaine de mois d'août. Parce que c'est vrai que si tu ramènes ça.
Une centaine de mois d'août.
Oui, imaginons que nous vivions 100 ans avec
déjà
les,
70,
les,
c'est
les progrès de la médecine. Très
déjà,
bien,
moi, c'est un miracle que je suis encore là.
Oui, oui. Mais de dire, de ramener ça, c'est vrai. Vous dites mois d'août, non, des étés. Combien
oui,
d'étés
des étés, mais ça part du mois d'août.
Oui,
en fait,
j'ai compris. Voilà. Non,
mais combien d'étés il me reste à vivre quand on sait, quand on, enfin, à vivre pleinement.
C'est ça.
Bon, si c'est passé à la fenêtre.
Et dans la pièce, vous dites une vingtaine, quoi, c'est ça.
Bah ouais, si on a du pot, une vingtaine, c'est que dalle. En fait, c'est rien. Donc tout d'un coup, on se dit.
Ça va miner.
Oui, oui je sais, mais ça mine tous les soirs. Alors maintenant, comme j'ai compris que ça minait les gens, je mets un bon temps avant de leur annoncer le truc, ouais. Parce que j'entends à la salle. Oh là, parce que je vois que les gens, tout d'un coup, ils font le calcul. Ouais. Ouais, ouais. Et comme au théâtre, il n'y a pas que des jeunes, je fais des désespérés.
Merde, deux. On est pratiquement au retour de l'enterrement. Hein.
Ils viennent de l'enterrer, voilà, ils reviennent et ils sont, comme souvent, après un enterrement, il y a besoin de se retrouver. C'est des copains, ils sont entre eux. Et justement, il y en a un qui dit, oh là là, il aurait pas. En fait, il y a un truc qui m'exaspère, c'est qu'après chaque enterrement, j'entends la même scène. J'en ai fait quelques-uns, heureusement pas trop dans ma vie, mais j'entends le même truc au bistrot. Mmh. Il aurait pas du tout aimé ça. Lui, ce qu'il aurait aimé, c'est de nous voir là en train de boire des coups et tout.
Qu'on fasse la fête.
Et ça m'épate. Je me dis, mais pourquoi vous pensez ça? Et donc, moi, je dis très franchement dans la pièce, j'ai pas du tout envie qu'on m'enterre en chantant, moi. J'ai envie que les gens en chient. J'ai pas du tout envie que nous voient. J'ai envie qu'ils pleurent. J'ai envie. Voilà. Et je dis, quand t'es aimé, t'as envie d'être pleuré. Donc,
et
c'est
pourtant,
quoi cette mode de.
Aux îles Fidji, il voilà. Y a une tradition.
Donc, voilà, c'est Christian qui me dit ça. Il me dit, mais ça se fait aux îles Fidji, mais on en a rien à branler. On vit en France. Qu'on soit un fou des îles Fidji.
Je trouve ça super honnête de dire, mais moi, j'ai pas envie que les gens soient heureux.
Mais
j'ai envie qu'on pleure. J'ai envie qu'on trouve le temps long et qu'on se dise, mais enfin.
Surtout quand on fait ce métier-là, il y a déjà un truc de suspect caché, il y a une espèce de désir de survivre et tout ça. Donc si en plus on t'enterre et que deux minutes après c'est fini, moi ça me déprime d'ailleurs. Je pensais à ça avec Jean Rochefort que j'adorais, qui est un de mes héros absolus, et je me dis merde, ça fait que 24 heures dans la presse. En réalité, ça nous ramène à ce qu'on est, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, et ça faut l'avoir bien en tête quand même.
Donc, c'est le pitch de la prochaine pièce qui va être complètement déprimante.
Non, j'essaye de faire rire avec ça.
Et encore, il est dans la presse, parce que c'est pas le cas de tous les comédiens. Il suffit
de tous les gens.
Non, mais c'est pas le cas de n'importe quel être humain déjà.
Déjà les gens en général, mais il suffit qu'il y ait un événement aussi dans l'actualité très important et la mort même d'un acteur.
Bah Jean Cocteau, Edith Piaf.
Exactement, qui sont morts le même jour et on n'a pas parlé de la mort de Cocteau, c'était Piaf qui faisait la une de tous les journaux. Mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est que là aujourd'hui on continue de parler de Cocteau et de Piaf. Ceux qui au moins ont une mémoire marquée, ce sont les artistes, ce sont les créateurs, ceux qui sculptent, qui peignent, qui chantent, qui écrivent. D'ailleurs l'écriture c'est une manière de sûrement de laisser une trace ou de laisser quelque chose à ceux qui vont suivre.
Ouais, sûrement.
Non mais est-ce que vous faites vous? C'est aussi cette manière-là de.
Oui, oui. Moi, je pense que c'est une thérapie formidable. Moi, en fait, en réalité, tout ce qui m'angoisse, j'essaye de faire rire avec. Donc, c'est ça, en fait, mon thème. Qu'est-ce qui m'emmerde bien? Et je vais essayer de faire rire avec ça.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous reprendrez bien un peu de LOL, les amis. En tout cas, moi, j'en veux et ça tombe bien. J'en ai de l'humeur et de la bonne avec Guillermo Guiz.
Bonjour, les amis.
Non.
Bonjour. Salut.
Bonjour. Alors forcément, vous allez me dire, quel lien avec l'Espagne? Merde, j'ai sauté une ligne en mon cœur. Merde, c'est con. Je chantais que j'allais choper la France avec mon bonjour les amis cette fois-ci. On avait compris tous les mots en plus, j'avais répété avec un orthophoniste.
T'es allé chez le coiffeur?
Et paf, l'incident bête, complètement. Chez le coiffeur et l'orthophoniste, vous avez vu, j'ai eu le problème cette semaine. Ça se joue à quoi? Mais non, c'est une ruse. Parce que c'est bel et bien une chronique parfaitement maîtrisée sur la situation en Espagne. Et mon lien avec l'Espagne, c'est Guillermo Guiz, évidemment. Guillermo Guiz, si c'était un hommage aux îles Féroé, ça se saurait. Faut pas être trop lambard pour capter que ça pue la castagnette et les taureaux qui saignent. Olé. Par contre, c'est un pseudo. Eh oui, je sais que c'est décevant, mais ça, c'est le musical, évidemment.
Ton vrai prénom, c'est Guy.
Eh oui, absolument. Quoi que Dick Rivers s'appelle vraiment Dick Rivers? J'ai vérifié, son nom, c'est Dick.
Non, c'est
Dick.
Hervé Fornieri.
Ouais, Hervé Fornieri.
C'est pareil pour Leila, elle fait moins le malin chez Starbucks quand le serveur l'appelle par son nom de naissance. Ah, Jean-Marie, ton latte est prêt. Enfin bref, en tant qu'espagnol pur jus de mythomanie, ça me fait mal de voir le couple Espagne-Catalogne se déchirer de manière aussi glauque. Franchement, on dirait pas un vieux film d'auteur iranien comme ça, ou alors Ma vie, avec l'un des deux qui fait à l'autre. J'ai besoin de ma liberté, putain, hein, je crois que je suis dans une phase. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais à quoi ça a à voir avec qui? Rodel Pueblo, del Montón, de la Ciudad, de la Passion. Et la Catalogne qui fait, tu sais, c'est pas parce qu'on est plus ensemble qu'on peut plus coucher ensemble. Mais tu crois vraiment que ce sera mieux quand tu seras seul? Joder, dit l'Espagne. Et la Catalogne est assez de répondre. En tout cas, t'arrêteras de me prendre la tête pour rien. Soit disant je te trompe, soit disant je te trompe, alors que ça arrivait que 9 fois ces 4 derniers mois. J'en peux plus, moi, de cette espèce de climat de suspicion. Hein, et t'es rentré bourré ceci, et t'as rasé le chien pendant son sommeil. Et t'as pissé dans les moules à glaçons. Oui, d'accord. Et t'as changé le mot de passe du wifi. Alors que par parenthèse, grosse bite, le tout en attaché. Voilà, non seulement c'est drôle, mais en plus c'est facile à retenir. C'est pas de ma faute, si ta grand-mère a pas d'humour, merde. Et d'ailleurs, depuis quand on a besoin de Wi-Fi, cette vieille future morte. Et là, l'Espagne, blessée dans son orgueil, répond qu'a t-elle à voir dans cette affaire ? Ne touche pas à ma grand-mère. Olé. Mais la Catalogne, bien dessinée à reprendre sa liberté, continue. Qu'est-ce que ça change ? Qu'on soit seul ou à deux, on n'est plus un vrai couple, rien que le sexe. Au début, quand on faisait l'amour, c'était magique. Je mettais deux coussins sous tes fesses et on écoutait Bernard Lavilliers. Mais c'est devenu un automatisme, il n'y a plus la fraîcheur. Et puis on va pas se mentir, je vois bien que c'est à Bernard que tu penses quand tu jouis. Tout ça parce que c'est un baroudeur. Alors là, l'Espagne se vexe. Tu mélanges tout. Escucha me, hijo del cielo de la puerta de la mort. Escucha me bien, coño. Célibataire, tu vas en chier. Tu crois que tu vas niquer comme Ryan Gosling. En vérité, tu vas finir par niquer comme Jean Lefebvre. Ce sera du Rex 3 semaines et une vie à crème tendresse le restant de l'année. C'est ça que tu veux? Une vie à la Daniel Morin, hein? Tu te fantasmes en concurrent en Don Quixote? Ben non. Au lieu de regarder Top Chef à deux, tu finiras par regarder Top Chef tout seul et ta vie, au lieu d'être juste chiante, elle va être chiante et triste. Et là? Évidemment, au moment de la dispute, la Catalogne fait « De toute façon, ça n'a rien de parler, tu pourras jamais comprendre à cause du fait que je suis quelqu'un de complexe. » Mais dans sa tête, la Catalogne hésite. Il y a une partie d'elle qui sait que le célibat, surtout le dimanche, franchement, ça pue la soupe, quoi. Célibat du dimanche, c'est le ramadan émotionnel, vraiment. Il n'y a personne qui t'appelle, personne te WhatsApp, personne te pigeon voyageur. Vraiment, le mec qui a inventé l'expression vivement dimanche, il devait être en couple depuis, je sais pas, 600 ans, quoi.
Michel Drucker.
C'est vrai, en plus. Voilà, c'est vrai, les célibataires, ils se suicident le dimanche, c'est statistique, alors que les gens en couple se suicident toute la semaine. Il faut le savoir. Alors, la Catalogne s'est dit, je vais quand même réfléchir, et elle dit à l'Espagne, écoute, je suspends provisoirement la rupture, mais sache une chose, c'est que je suis cassé, je suis lassé, j'en ai plus cassé, l'ardoise est chargée, fils, ça, tu ferais bien de l'effacer. Yo, les histoires d'amour finissent toujours mal, mais pas chez Ménélique.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Hop, on arrête tous les amis, l'heure est grave, quelqu'un d'important a quelque chose à dire de très très important. Ce quelqu'un, c'est moi.
Yes.
Allez, on y va direct, on ouvre le gros dossier gros dégueulasse duquel, pour des raisons aussi professionnelles qu'amicales, j'ai retiré Nagui. Pour ce dossier brûlant et dégueu à la fois, une nouvelle tête de gondole débarque, c'est le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Après les témoignages accablants de plusieurs comédiennes, dont Asia Argento, Rosanna Arquette ou encore Angelina Jolie, c'est une Française qui balance sur les coutumes du sympathique producteur, qui un jour à Cannes propose à Emma Decaune de monter dans sa chambre pour lui remettre un livre dont sera tiré un film pour lequel Emma devrait avoir un rôle. Une fois dans la chambre du facétieux Harvey, ce dernier s'excuse, va prendre une douche et revient entièrement nu et en érection. Puis il invite Emma Decaune à s'allonger sur le lit. Elle refuse, s'apprête à partir, quand Harvey lui balance « Mais on n'a rien fait, c'est comme dans un film Disney. » Moi, ça m'a fait drôle.
Ah bon ?
Et quand ça me fait drôle, ça me fatigue.
Ah oui.
Et quand je fatigue, je m'allonge. Et quand je m'allonge, j'ai les yeux qui se ferment. Et quand j'ai les yeux qui se ferment, je dors. Et quand je dors,
je rêve.
Dans mon rêve, et sûrement consécutivement au propos de Harvey Weinstein, je suis à Disneyland. J'étais dans la suite Mickey, dans mon lit en forme d'oreille. Quand on frappe à ma porte, je vais ouvrir. C'était la Belle au Bois Dormant.
Salut.
Bonjour, la Belle au Bois Dormant.
Tu te plais dans ta piole?
Ouais, c'est confortable.
Tu t'ennuies pas trop tout seul?
Non, ça va, je regarde Disney Channel.
Tu veux que je te tienne compagnie?
Si vous voulez, mais il n'y a aucune obligation. Hein. Je suis bien là tout seul à regarder les trois petits cochons.
Oh, il fait chaud ici, hein. Ça ne dérange pas si je me mets toute nue?
Si vous voulez, mais ça va devenir gênant. Nom de Dieu, Harvey Weinstein a raison. Peut-être, on peut être à poil dans un film de Disney sans pression. Enfin, ça dure pas longtemps. Hein. Au bout de 30 secondes, la belle était plus du tout au bois dormant. Hein. Elle m'a sauté dessus, mais comme une folle.
Laisse-toi faire, étranger, tu vas voir ce que je sais faire. Avec moi, c'est la grande parade du slip, tu vas déguster, gros salaud. Ça fait 100 ans que j'opionce, je suis au taquet. J'ai les hormones d'un scout sur un corps de hardeuse. T'as pas intérêt à jouer les émotifs, je suis bouillante, on pourrait faire cuire un œuf sur mes fesses. Question épilation, excuse, mais moi, hein, 100 ans sans esthéticienne, ça fait des dégâts. J'ai les jambes de Chewbacca et sous les bras, on croirait qu'il y a deux marmottes qui remplissent. Et accroche-toi au matelas, j'envoie du bois.
Nom de Dieu, je savais plus où donner de la tête, et puis hop, elle a disparu. Dans ce rêve aussi étrange qu'érotico-cartoon, je remets Disney Channel, les trois petits cochons, et là, rebelote. On cogne à ma porte. Qui c'est ?
C'est Rock, c'est Rookie.
Oh ! J'adore ! Rentrez, les amis, rentrez ! Nom de Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Bah rien, juste... On est juste intégralement épilés.
Ah oh non mais ça fait très très peur. Ça te plaît pas? Bah en fait je me sens un petit peu mal à l'aise.
Détends-toi, on va s'amuser.
Oh non. Oh, le bad trip. À peine rentré dans leur niche, je me détends, reprenant la lecture des trois petits cochons. Ça retoque à ma porte. Nom de Dieu, Nagui. Les sept nains.
Gourmand.
Salut Daniel, ça va?
Oui, pas mal.
Ça te dit une expérience à 7?
Oh non, pas trop en fait.
8.
Ah, 8.
Tu dis 7 plus toi? Bah non, pas trop en fait. Hein.
Tu dis ça parce qu'on est nain?
Ah bah alors là, pas du tout, rien à voir, hein. Ça fait plus de 3 ans que je travaille avec quelqu'un qui... Ah, je vous jure, j'ai rien contre les modèles réduits.
Bah on y va alors.
Mais on va où?
Allez tous en cercle, on fait la chenille avec notre ami Daniel. C'est cool, non?
Ah non, 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 c'est pas cool. En plus, là-bas, il y en a un comme moi, il a pas l'air de s'amuser.
Laisse, c'est grincheux.
Épuisé, j'étais épuisé, mort sur les rotules. Péniblement, j'atteins la télécommande. Ah, je remets les 3 petits cochons. Nom de Dieu, d'abord la Belle au bois dormant, ensuite Rox et Rookie, enchaînaient les 7 nains, j'étais au bout du rouleau. Ça commençait à faire beaucoup ce rêve de harcèlement Disney. Alors quand ça a frappé à ma porte et que j'ai vu que c'était les 100 dalmatiens, je vous le dis franchement, j'ai pas ouvert. Épouvanté, je me suis réveillé. Quel cauchemar. Il a tort, Harvey Weinstein. Se retrouver à poil avec des gens que t'as pas choisi, c'est pas du Disney. Non, non, rien à voir. Disney, c'est les 3 petits cochons. Et vous, monsieur, vous êtes un gros porc.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale réalisée par Marie-Anne Écrabeau, c'est fini. Mais je vous rassure, on se retrouve demain, même heure, même endroit. En attendant, maintenant, pour patienter jusqu'à demain, Grand Ciel et la très belle voix d'Art Mengo.
Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin. On joue diable à la ronde, ou bien rien, ou bien rien. Du bleu des satellites, des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque. Il trouve un strapontin, un fauteuil, un hamac. Pour regarder passer, passer les gens passer. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et midi à sa porte. Bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour cueillir en son sein le bonheur, la misère. Des avions et des saints, Apollo, des prières. Les paroles d'hirondelles et celles des aigles saines. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie. Moi je crois qu'il est changeant. Combien des sentiments. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel. Et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand. Pour noyer des rivières de pierre, grand seigneur. Dans la couleur de l'air, il y a les premières roses. Des big bangs de l'amour, lui marche sur du velours. Croyez-moi.